Canal Sud 92.2. Bonjour tout le monde. C'est parti pour un mag. Alors, aujourd'hui, mercredi 10 avril, nous avons, bien entendu, comme tous les jours du lundi au vendredi, nous avons le piquet anti-linky au Pinky, 25 rue des Artistes, près de l'espace Job. Mais vous connaissez maintenant. Donc, entre 8h et 18h, si vous avez une heure ou deux ou trois à donner aux opposants au compteur Linky, dont vous êtes, je suppose, alors allez mettre la main à la pâte pour empêcher cette incursion dans nos intimités, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors ça, donc, à partir de... c'était à partir de 8h, mais vous avez jusqu'à 18h pour aller donner la main aux protestataires de cette hérésie électrique. Voilà. Et puis, à 18h, bien entendu, comme tous les jours, vous avez le point info gilet jaune à la place Ravelin, à Saint-Cypre. Et puis, à 18h, tout près de chez nous, au Palais de Justice, eh ben, y a une manifestation toute malfaiteur. Alors, toute malfaiteur, je vais vous lire l'article correspondant. Depuis le 17 novembre, des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue, occupent les ronds-points et expérimentent de nouvelles formes d'organisation. Loin de perdre en intensité, ce mouvement n'a cessé de prendre de l'ampleur. Depuis le 1er décembre, chaque samedi, voit s'exprimer la rage populaire. Mais chaque semaine aussi, la répression s'abat. Les flics blessent, les juges emprisonnent. La répression est féroce, mais ne calme pas les ardeurs de la rue. À Toulouse, près d'une centaine de personnes sont passées par la prison de Seyss depuis le début du mouvement. Certaines sont sorties, d'autres y sont encore. Certaines ont été condamnées, d'autres sont en attente de jugement. Alors que les comparutions immédiates s'enchaînent, de plus en plus d'enquêtes sont ouvertes. Dans certains cas, le parquet a décidé l'ouverture d'une instruction, notamment pour le chef d'inculpation fourre-tout d'association de malfaiteurs. C'est pourquoi que nous sommes tous malfaiteurs. Cette procédure permet de mettre en place toute une série de moyens de surveillance et d'enquête supplémentaires autour des personnes inculpées et de leurs proches. Jusqu'à une éventuelle date de procès, les flics et leurs auxiliaires ont carte blanche pour s'immiscer toujours plus dans leurs intimités, pour passer au peigne fin leur vie en espérant trouver des éléments incriminants pour remplir un dossier de notes blanches et en prime à affiner les fiches de renseignement. Parmi les affaires de ces derniers mois, on peut citer par exemple l'instruction autour de l'incendie du péage de Bessan. 46 personnes ont été arrêtées et détenues en garde à vue jusqu'à 96 heures et 12 personnes sont en détention provisoire. Elles sont réparties dans différentes tôles de la région, soi-disant pour empêcher la concertation. Même si on sait que c'est pour faire galérer les proches qui doivent parfois passer plus de 12 heures de voiture pour avoir un parloir. Quelques semaines plus tard à Toulouse, 8 personnes sont mises en examen pour des confections de banderoles, mais oui, et de fumigènes artisanaux. Interpellées lors d'une réunion, elles font 48 heures de garde à vue à leur domicile et leur domicile, hélas oui, la garde à vue c'est pas à son domicile. Elles font 48 heures de garde à vue et leur domicile sont perquisitionnés. Elles restent aujourd'hui sous contrôle judiciaire malgré l'appel du parquet pour les renvoyer en détention. À chaque fois, la presse s'agite autour de l'identification de groupes d'ultra-gauche qui chapeauteraient et manipuleraient le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est dans ce contexte qu'est également arrêté un compagnon Gilet jaune le 2 février. Interpellé en début d'après-midi dans le centre de Toulouse, alors qu'à quelques centaines de mètres de là s'élance l'acte 12 des Gilets jaunes, il est rapidement identifié à son arrivée au commissariat grâce aux fiches de renseignement. Outre la fourniture d'une identité imaginaire et un refus du fichage, la possession de clés de facteur devient alors un prétexte pour lui faire endosser une responsabilité aussi floue que large dans les émeutes qui enflamment la ville depuis le mois de décembre. 60 flics débarquent dans deux domiciles et il est mis en examen pour association de malfaiteurs. Ce qu'on lui reproche, selon les mots de la juge d'instruction Élodie Billot, c'est son appartenance à la mouvance anarchiste et c'est ce qui permet de l'envoyer en prison. Et bien attention les copains. Depuis près de 2 mois, il est enfermé à Seyss. Le 11 avril aura lieu l'appel de sa mise en examen. Et c'est pourquoi nous nous réunissons à 18h devant le tribunal de grande instance, donc évidemment Métropalais de justice. Hein, voilà. Nous pourrons réaffirmer notre solidarité devant ce camarade. Et puis, à 18h30, à Paul Sabatier, vous aurez une nouvelle projection du film « Ni les femmes, ni la terre », donc à Paul Sabatier, 133, route de Narbonne, si vous n'avez déjà vu ce film la semaine dernière. Et à 20h30, vous avez rue du Colonel Drian une réunion, la réunion mensuelle d'attaque, à 20h30. J'ai oublié, à 19h. À 19h, à Terra Nova, vous aurez Francisco Perejil avec le Festival Flamenco de Toulouse et un concert de Lidi Fuerte, guitariste. Et Francisco Perejil nous présentera le livre Camarón de la Isla, la douleur d'un prince. Alors à Terra Nova, vous pouvez y aller les yeux fermés. On ne perd jamais son temps. À Terra Nova, c'est toujours des soirées très, très riches et très chouettes. Et j'adore. Et vous aussi. À 20h30, à la salle Castelbou, eh ben, vous avez un grand coup de gueule que nous pousserons tous. Non à la tour Occitane. Alors, on va revenir sur ce projet pharaonique et sur les raisons que nous avons d'être contre cette tour occitane. Alors, comme nous sommes en période de d'enquête d'utilité publique par Internet, vous avez la possibilité de choisir un ou plusieurs arguments dans la liste que je vais vous donner quand j'aurai un petit peu repris mon souffle. Voilà. Voilà donc les différentes raisons que vous pouvez présenter dans votre protestation contre la tour occitane. Alors je vous mettrai l'adresse plutôt sur la page de podcast. Bon, vous en verrez ça à http://www.haute-garonne, dans Haute-Garonne avec le tiret du 6 bien entendu, .gouv.fr et puis trois lignes ensuite que je vous préciserai sur la page de l'émission. Alors, je suis contre le projet de gratte-ciel de la Tour Occitanie car c'est un projet imposé d'en haut et inutile. Toulouse n'a pas besoin de gratte-ciel, ni pour les bureaux. Il y a plus de 240 000 mètres carrés de bureaux vides, invendus et pas loués. Ni pour un surcroît d'appartements de luxe. Pour la vue, les Toulousains et Toulousaines peuvent aller à Pêche-David et ils auront bientôt un téléphérique à leur disposition à Rangueil. Ah ben ça y est, c'est remis en route. Eh ben, je suis drôlement contente. Bon. C'est un projet surprise annoncé aux Toulousains et Toulousaines lors d'un salon immobilier à Cannes, sans aucun débat préalable. C'est un projet en contradiction totale avec ce que le maire et président de la métropole, via la société d'économie mixte Europolia, avait convenu dans le plan guide urbain de 2016, concluant les ateliers et à la concentration qui ont duré 3 ans avec les associations. Les bâtiments ne devraient pas dépasser 50 mètres à cet endroit. Ah. Ce projet de gratte-ciel en plein centre-ville n'a pas de légitimité politique puisqu'il n'a pas fait l'objet de débats démocratiques avec les citoyens et citoyennes, en particulier lors d'élections municipales. Ce projet trop symbolique doit d'abord être débattu lors des très prochaines élections municipales de mars 2020. Il ne doit pas être imposé à la population en accordant le permis de construire cet été et en commençant les travaux cet automne. Tous les artifices juridico-administratifs auront été déployés par les autorités pour que la construction du gratte-ciel puisse être démarrée avant les élections municipales. Alors que les études sur l'impact de la tour sur le tunnel de la ligne de métro A ne sont pas encore connues. Ce sont les contribuables qui vont devoir financer des travaux comme l'agrandissement du pont et le parvis, les infrastructures spécifiques et les personnels de sécurité incendie et de sûreté, tandis que le gratte-ciel posera par sa hauteur et son emplacement aux autorités toulousaines des problèmes nouveaux de sécurité. Impact par rapport aux voyageurs de la gare, risque incendie et transport de matières dangereuses transitant par la gare. Et de sûreté, terrorisme, de nombreuses et régulières alertes à la bombe dans la gare existent déjà aujourd'hui. En cas d'échec commercial, ce seront les contribuables qui devront prendre en charge ce bâtiment, comme c'est le cas pour d'autres immeubles de grande hauteur. Le gratte-ciel ne correspondra pas aux prochaines normes environnementales, bâtiments à énergie positive, de construction, qui entreront en vigueur en 2020. Il sera donc ringard du point de vue écologique. En particulier, la pseudo-végétalisation avec des arbustes en pot qui seront coûteux à entretenir écologiquement, consommation d'eau et financièrement par des spécialistes requis. Je suppose que vous avez tous vu la photo de la maquette. Ça se comprend tout de suite. Les plantations ne seront assurées que pendant 10 ans. Le gratte-ciel sera nuisible aux oiseaux qui viendront se heurter aux 150 mètres de parois de verre des logements, forcément éclairés de nuit, car habités. Le gratte-ciel apportera de nombreuses nuisances aux riverains, ombre portée sur plus de 10 000 personnes et réverbération, vents locaux, îlots de chaleur l'été du fait de la nature du bâtiment en béton et en verre. Tous ces effets sont accentués par la hauteur du bâtiment. La surdensification au niveau du gratte-ciel, entre 2000 et 3000 personnes, créera un ajout de circulation et stationnement automobile qui se répercutera sur le niveau de pollution qui dépasse déjà aujourd'hui les normes acceptables. C'est une atteinte au patrimoine urbain de Toulouse. Avec cette construction verticale digne d'une autre époque, par exemple au début du XXe siècle aux États-Unis, Toulouse subit avec ce bâtiment une rupture avec l'architecture horizontale qui fait sa qualité de vie et son attrait auprès des visiteurs, qu'ils soient touristes ou acteurs économiques. Je ne veux pas que notre ville rose souffre d'un signal architectural fort, anti-patrimoine, anti-social, anti-écologique, anti-art de vivre. D'un gratte-ciel érigé en totale incohérence avec les choix majeurs énoncés par les différentes instances et en complète contradiction avec les souhaits d'une large majorité de concitoyens. Il accélère la gentrification de Toulouse par la construction d'appartements de très grand luxe dans les derniers étages du gratte-ciel qui contribuent à l'éloignement des populations modestes ou défavorisées qui participent à la richesse humaine de ce quartier. La construction et l'entretien des gratte-ciels sont très consommateurs d'énergie, plus de 25% par rapport à la normale. Ils ne sont donc plus adaptés à notre siècle d'économie de l'énergie et de l'eau. L'enquête publique a lieu jusqu'au 30 avril à 17h. Alors, il faut envoyer donc ces observations à www.haute-garonne.gouv.fr/enquête-toulouse-euro-sud-ouest, tout attaché. Vous retrouverez ça sur la page du podcast. Et puis, où on en est, vous avez, on arrive à demain. Alors demain, bien entendu, de 8 à 18 heures, anti-Linky, comme vous pouvez, tous ceux qui peuvent, pour protester contre ce compteur inutile, lui aussi, comme la tour, qu'on veut nous imposer, bien entendu. Et de 13 à 17 heures, vous avez la réunion, la communion, le débat, etc., à l'Université Jean Jaurès, au bâtiment Olympe de Gouges, réunion Toulouse-Saragosse, sur le thème de la santé, des migrations et de la scolarité. Et ce congrès, disons, ce congrès se poursuit vendredi de 9h30 à 16h30. Alors, demain, ça se passe de 13h à 17h et vendredi de 9h à 16h30. Et puis, à 20h30, donc jeudi, à 20h30, vous avez à la salle Rancy le combat d'une lanceuse d'alerte. Une lanceuse d'alerte qui fait partie du paramédical et qui déclenche une alerte, qui a déclenché une alerte sur la maltraitance des enfants et des jeunes handicapés dans les instituts qui sont sous-équipés en personnel et en matériel. Et on l'a accusé, bien sûr, de menterie. Et le procès en appel est toujours attendu. Donc, allez écouter cette lanceuse d'alerte courageuse à 20h30 à la salle Rancy. Voilà. Donc, vendredi 12, Toulouse-Saragosse au Mirail, toujours pareil, bâtiment Olympe de Gouges. Et demain, vendredi, ça sera sur le thème de l'accueil, du logement et de la transformation urbaine et du pouvoir. Hein, on en revient à notre horreur de tours gigantesques et inutiles. Et puis à 20h, vendredi, quelque chose de sympa, au local camarade, hein, boulevard Déoda de Séverac, vous avez la cantine solidaire avec les gilets jaunes. Et le menu, vendredi, ça sera rougail et cake au citron. Alors pour les amateurs et pour tous ceux qui veulent soutenir les gilets jaunes, rendez-vous à 20h au local camarade boulevard Déoda de Séverac. Et puis, toujours le 11, jeudi 11 à 20h30 au Sénéchal, vous avez une conférence sur la Grèce et les Balkans face aux enjeux de la globalisation avec Emmanuel Kosadimos. Il doit savoir de quoi il parle avec un aussi joli nom. Et on arrive au samedi. Samedi, bien entendu, 14h, 22e acte des Gilets jaunes au métro Jean Jaurès, sur les allées Franklin-Roosevelt, côté Place Wilson. Et à 18h, vous aurez le festival Fred qui se tient ce jour-là aux allées Jules Guesde, hein, 41 allées Jules Guesde, je crois que c'est le quai des Savoirs. La séance est gratuite et c'est une opération biodiversité. Le film est une opération biodiversité, film d'Éric Moreau qui est projeté à cet endroit en première nationale. On arrive à dimanche. Dimanche à 17h. Si vous pouvez aller jusqu'à Autrive, à Loustal, au cinéma Loustal, vous avez quelque chose qui m'a fait craquer avec son titre, La stratégie du concombre tordu. Alors c'est avec des AMAP et avec les auteurs du film, Sylvain Daron et Luciano Ibarra, et donc des acteurs d'AMAP. Les AMAP, vous savez bien que ce sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne et qui travaillent en bio. Et en bio, eh bien, quand il y a un concombre tordu, ben, ce n'est pas parce qu'il n'est pas normalisé qu'on va le jeter. Un concombre tordu, c'est très bon aussi. Et alors, ça se mange. Donc, on va avoir une projection sur les travaux des AMAP, bien sûr, et puis une discussion, évidemment, qui promet d'être animée et rigolote. Et puis, à 19 et 21 heures, à la Maison de la Citoyenneté Nord, qui est, comme chacun sait, 4 places du Marché aux Cochons, au métro Nogaro. Alors là, vous aurez des courts-métrages, dont un en particulier sur la face cachée du transport animalier. Alors là, je vous recommande d'être vitaminé parce que c'est assez pénible. Mais il faut le voir, il faut le voir. Moi, quand j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça de près, ben, je suis devenue quasiment végétarienne. On ne peut pas imaginer, on s'achète un beefsteak et on trouve que le beefsteak, il est bon. Et puis, on ne pense pas d'où il vient et qu'est-ce qu'a souffert la bête pour arriver dans votre assiette. Alors, c'est le 14 avril à la Maison de la Citoyenneté, place du Marché aux Cochons. Et le film sera reprojeté le lendemain à l'Institut Goethe. Le lendemain, donc lundi 16 avril, la face cachée du transport animalier sera représentée, peut-être avec d'autres courts-métrages, mais celui-ci c'est le principal. Donc, à l'Institut Goethe. Et le 15. Alors, le 15, vous avez à Audi-Sud, à 13h30, élémentaire sur la transition écologique. Et puis, on arrive à mardi. Mardi, 16 avril, à 20h, à Tola, 11 rue Malcousina, la réunion régulière des objecteurs de croissance. Et à 21h, aux diversités, il y a une chose très grave qui nous est expliquée aux diversités. C'est la menace qui porte, qui existe déjà en mer Baltique. Alors, ce sont les Amis de la Terre qui ont lancé l'alerte et on aura une projection et une projection, oui, je pense. Mais j'en suis pas tout à fait sûre. Mais ça serait qu'une discussion, ça vaudra autant la peine, sinon plus. Alors, je vous lis l'article des Amis de la Terre. En mer du Nord et en Baltique, les Alliés ont volontairement coulé des navires transportant près de 3 milliards de tonnes d'armes chimiques et conventionnelles produites lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces déversements restent méconnus, mais les conséquences environnementales sont graves. Les barils qui les confinent mettent entre 80 et 100 ans à rouiller. Ils commencent actuellement à diffuser leur poison dans la mer. Il suffirait que 16% des substances s'échappent pour éradiquer toute forme de vie pendant des siècles. Les scientifiques prédisent une catastrophe sans précédent. En Europe, la France est le pays le plus touché pour la période 14-18 et l'Allemagne pour la période 39-45. Entre ces deux pays, les fonds marins qui longent le littoral belge forment un vaste tapis de bombes toxiques, alors que les autres pays européens et la Russie commencent à communiquer pour échapper au cauchemar, la France refuse de lever le secret défense. Pourquoi et comment cette décision a-t-elle été prise? Comment éviter la catastrophe? Et vous avez en effet un documentaire de Jacques L'Œil. C'est une production Réal Production. Voilà, donc ça, il faut voir ça. Et évidemment, vous ne pouvez pas voir la carte que j'ai sous le nez. J'allais dire ces ruines. Elles sont ruinées, bien sûr. Ces containers ont été coulés tout autour de la Bretagne et jusqu'au pays scandinave. Alors, vous voyez, pour aller faire trempette, il vaudrait mieux choisir d'autres endroits. Voilà. Vous aurez aussi des précisions sur la page du podcast. Alors, donc, ça, c'était pour les menaces en mer du Nord. Et puis... Oh, on va se faire une petite pause musicale quand même. Voilà.
Been up there by the internet, Father.
Send me a sweet chariot.
Oh, yeah.
For the end of the trouble I see.
My sweet chariot.
Oh, rocking chairs got me.
Oh, rocking chair, get it, Father.
And the judgment day. He's grabbing up on me.
Tell him about it, Father.
Yeah. I'm gonna do my own rocking.
Look like old rocking chair got you, Daddy.
I can't move a peg, Lord.
Yeah, look like your cane laying down there by your side.
Well, I use it for a trombone sometimes.
Yes, sir.
But I ain't got no gin, Father. Yes.
Yeah, well, you better start running now.
Yes, look like you're gonna tan my hide.
No, I'm gonna forgive you this time.
Now, you can't get from this cabin.
What cabin?
No, Father, yes.
Yes.
But you ain't going nowhere.
I done been where I was going. I ain't going there no more.
Dig him. You sitting here grabbing.
Yeah.
You grabbing.
Yeah.
You grabbing.
What?
At the flies round the old rocking chair. Rocking chair. Now look at Father. You remember old Aunt Harriet, don't you? I know you remember.
Yeah, I knew her pretty well. But not that well.
What a deep booty to sit. Yes, fetch you a chariot, oh chariot.
I got to ride, yeah, I gotta have a chariot.
Cause the time and trouble both of us are seeing.
Nobody knows the trouble I see.
Now, old rocket chair, get it?
Yeah.
Now, rocket chair, get it?
Mm-hmm.
And just the day.
êtes toujours sur Canal Sud 92.2, on est en plein magazine. Et pour finir l'agenda, il faut que je complète, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas que la mer du Nord qui est archi-polluée par les déchets guerriers. Il y a aussi le golfe de Gascogne, tout près de chez nous, dans lequel ont été immergés des barils contenant des déchets radioactifs depuis les années 50. Alors, ça n'est plus le cas. On n'en a plus balancé depuis à peu près les années 70-80. Mais enfin, il y a 20 ans de cochonnerie au large du golfe de Gascogne. Bon, c'est peut-être pas sur la plage, d'accord. Mais ce qui est sur la mer, ça arrive sur la plage. Hein. On sait ça. Marée noire ou autre. Voilà, et ben, il nous reste la piscine, quoi, à peu près. Et puis maintenant, je voudrais vous reparler d'un copain, d'un ami que nous avons reçu ici à Canal Sud, dans une émission dont je vous rappellerai les coordonnées sur la page de podcast. Il nous parlait du centre culturel africain qu'il a créé. Cet ami, c'est Kevin, c'est notre ami Kevin Zhang, qui est gabonais et qui est étudiant en France et qui a monté avec des amis le centre culturel africain où on nous a déjà présenté au Cosmographe des films et à Terra Nova des discussions. Kevin est quelqu'un de tout à fait passionnant et passionné, et l'écouter, c'est un souvenir que l'on garde longtemps, parce que je n'ai jamais entendu personne s'exprimer comme il le fait. Il parle comme un agrégé de grammaire, avec la poésie en plus. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous retrouverai le lien de l'émission que nous avons fait ensemble et qui reste un très bon souvenir et même une grande fierté pour moi. Alors voilà, Kevin a fait des études un petit peu dans plusieurs directions. Ça me rappelle un peu comment j'ai pataugé pour les miennes. Moi aussi, j'ai fait 2 ans d'études dans un sens en perdant 1 an, et 2 ans d'études dans l'autre sens en perdant les 2 ans, et puis j'ai fini par quand même passer le concours de l'éducation nationale, et puis voilà comment j'ai embêté des générations de potaches plus adorables les uns que les autres, et comment je suis arrivée à Canal Sud, parce que je regrette trop mes élèves, et il faut que je cause, sinon ça va pas, voilà. Alors, je viens de recevoir une lettre de Madame Ingrid Essimengané, qui se trouve être la sœur de Kevin et qui a organisé la solidarité pour empêcher que Kevin ne soit rapatrié de force au Gabon alors qu'il fait ses études. Il a eu le droit, tout le monde a le droit de mal choisir, de mal s'orienter, disons. Comme il n'a pas eu tous les diplômes du premier coup dans ses diverses orientations, alors qu'au bout de 2 ans, à chaque fois, il avait réussi le diplôme, bien sûr. Mais on a trouvé, parce qu'on a cherché, on a voulu trouver, on a trouvé que ses études n'allaient pas assez vite et qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Alors moi, je ne sais pas où je vais rentrer, hein, étant donné que mes parents ont des origines, ont des doubles origines contrôlées. Moi, avec les mêmes balbutiements que j'ai eus dans mon jeune temps, je devrais rentrer, je ne sais pas où, excusez-moi. Voilà. Alors voilà ce que Ingrid nous écrit. Bonsoir tout le monde. Je viens par ce message vous remercier pour tous vos efforts et surtout pour tout l'intérêt que vous portez à Kevin. Vous êtes nombreux à le soutenir. Vos appels, messages, mails lui ont permis de tenir bon jusqu'ici et surtout de garder espoir. Oui, parce que Kevin était rien que en centre de rétention. La mobilisation dont il a bénéficié a permis de mettre en lumière tant son implication dans la collectivité que les liens qu'il a eu la chance de tisser avec chacun d'entre vous. Cette mobilisation a également eu pour effet de conduire le juge à s'intéresser à la personne même de Kevin, au-delà des faits relatés dans son dossier et des arguments avancés par le préfet. Chacun de vous a joué un rôle déterminant pour la tournure des événements. Il m'était impossible à ce stade de poursuivre ce chemin sans vous exprimer ma gratitude. Merci infiniment. Le juge administratif de Montreuil a considéré que la situation ne revêtait pas la même urgence que devant le juge des libertés et des détentions. En effet, dans un centre de rétention, les personnes sont privées de leur liberté d'aller et de venir, qui est un droit fondamental. Le juge doit donc statuer dans l'urgence pour faire cesser l'atteinte résultant de la rétention administrative. Bien qu'assignée à résidence, la liberté de Kevin n'est plus aussi limitée aujourd'hui qu'auparavant. C'est en ce sens que le juge a estimé qu'il n'y avait plus urgence à proprement parler. Parallèlement à l'action en cours devant le juge, nous allons présenter une demande de titre de séjour au préfet du 93. Compte tenu de la situation de Kevin, la demande sera adressée par son avocate. Pour appuyer cette demande, nous aurions besoin que chacune des personnes l'ayant soutenue par courrier nous renvoie directement le courrier de soutien. Alors je vous mettrai l'adresse bien entendu sur le podcast. Le courrier de soutien est envoyé donc à l'avocate à l'adresse soutien Kevin Zeng N-Z-E-N-G @gmail.com. Mais je ne sais plus... comment sont les points, les tirets, etc. Donc, je vous remettrai cette adresse sur la page de podcast. Voilà. Donc, le premier jugement a été favorable. On a bien vu que Kevin était un étudiant et un étudiant très brillant. Il a donc fait des études de philosophie et après de mathématiques. Et là, il est entré à ce qu'on appelle l'école 42. Enfin, on ne dit pas l'école, on dit le 42 tout simplement. Ça a toute une histoire, cette école. C'est une école avec une école d'enseignement supérieur, bien entendu, avec une pédagogie active extrêmement novatrice. Et il se trouve que Kevin, qui a été diagnostiqué comme surdoué, il se trouve que ça lui correspond complètement et il est devenu l'étoile de cette école où j'aurais bien aimé envoyer mes enfants. Mais bon, voilà, le 42, c'est une école extraordinaire, c'est l'école de l'avenir. Et toute l'école soutient Kevin et je vous assure qu'il y a des raisons. Donc, vous le verrez, vous en jugerez vous-même quand vous écouterez la prestation de Kevin à Canal Sud il y a 2 ou 3 ans, je crois. Voilà. Donc, je compte sur vous pour envoyer votre soutien à l'avocate de Kevin parce qu'il était très souvent à Toulouse et on serait très content de le récupérer, quoi, voilà. Maintenant, il y a à Toulouse, en dehors de cet horrible tour qu'on nous promet, il y a quelquefois des initiatives de rénovation, de réorganisation qui peuvent paraître séduisantes. Par exemple, à la cartoucherie. La cartoucherie qui a suscité bien des utopies et qui commence à susciter des déceptions. Derrière sa vitrine verte. Ça, c'est un extrait de Médiacité. L'article est d'Armel Parion. Alors, à la cartoucherie, Toulouse Métropole prétend créer l'éco-quartier avec le plus grand habitat participatif de France. Mais la vie des premiers habitants ne correspond pas toujours à l'affichage marketing. C'était une gageure, bâtir un éco-quartier sur un ancien terrain militaire, là où l'État, avec récemment Giat Industries, fignolait des munitions depuis 200 ans. Pourtant, dès le rachat des 33 hectares rive gauche, entre l'avenue de Grande-Bretagne, la voie du Toec et l'avenue Raymond Badiou, la mairie s'est lancée dans cette reconversion avec la société Opidea, sous le label Éco-Quartier. Fin 2017, la cartoucherie devient un projet d'aménagement urbain respectant les principes de développement durable tout en s'adaptant aux caractéristiques de son territoire. Qu'importe si la fin de la deuxième tranche ne se termine qu'en 2021, avec la livraison du projet Next City et de l'hôtel économique en ossature bois d'Icade. Qu'importe s'il reste une troisième tranche et si seulement 1000 habitants sont arrivés à ce jour. Avec à terme 3500 logements, la cartoucherie innovera par la mixité de son habitat, 35% de logements sociaux et 25% en accession aidée à la propriété. Innovation encore, avec ses caractéristiques écologiques. Chaleur issue de l'incinérateur des déchets du Mirail, récupération de l'eau de pluie pour les espaces verts, valorisation des transports doux. 78 000 m² de bureaux et 7 000 m² de commerce prévus. Biocop, coffee shop, restaurant asiatique et conciergerie doivent ouvrir ou devaient ouvrir en mars 2019. Restaurants, salles de sport, espaces de coworking s'installeront en 2020 dans une halle historique rénovée. Depuis un an, 72 ménages ont rejoint l'îlot d'habitat participatif des 80 grâce à un dispositif d'accession sociale à la propriété et 17 autres via la création d'une coopérative d'habitants, Abricop. Le pari de la mixité sociale et de l'écologie semble réussi. Entre trampolines sur la pelouse, chambres d'amis mutualisées, c'est une super idée, buanderie commune, cours de yoga et d'arts martiaux dans la salle polyvalente, AMAP, mais oui, AMAP de légumes, de fromage et de pain, sur le papier, ça fait rêver. Le nouveau président du comité de quartier de la cartoucherie, Sébastien Gomez, organise le projet collectif à l'échelle de tous les co-quartiers et souhaite y créer une vraie économie solidaire. Je vais peut-être faire une petite pause, parce que je fatigue. Oh oui, tiens. Non. Je voulais vous mettre quelque chose de sympa. Bon, voilà.
I'm
Sébastien Gomez, donc, organise le projet collectif à l'échelle de tout l'écoquartier et souhaite y créer une vraie économie solidaire. Et puis ça démarre bien, hein, faut reconnaître. J'ai l'impression de vivre dans un village de vacances, s'amuse Sylvain Guignard, lui qui vit dans l'immeuble à la façade en bois, à Bricop, où participatif rime avec militantisme. Nous sommes propriétaires, mais nous devons fixer nous-mêmes des mensualités de remboursement aux banques. La répartition prend du temps, car nous voulons que les loyers soient solidaires et justes en fonction des revenus de chaque ménage. C'est un succès du point de vue de l'habitat participatif et des trois parkings mutualisés, considère Régis Godec, conseiller municipal ELV, qui a défendu le projet en tant qu'adjoint aux écoquartiers sous Pierre Cohen. Il regrette en revanche que les riverains et les habitants n'aient pas été associés aux choix architecturaux et qu'il n'y ait pas de réflexion partagée sur la gestion des déchets. Les quatre vents ont pourtant déchanté, pour des raisons plus pragmatiques, dégâts des eaux, panne de chauffage et nombreux problèmes de finition. Les barres de fer qui soutiennent les façades devaient accueillir des stores que nous n'avons jamais eus. Certains ont pris des avocats espérant obtenir des indemnisations de la part du promoteur, les chalets. Chez Abricop, les habitants ont relevé 600 protestations sur les 17 appartements. Membre du conseil syndical de la copropriété, Pascal Boisgeso estime que ces problèmes sont inhérents à la livraison de tout immeuble. Les dernières réclamations ont été envoyées avant que n'expire la garantie du parfait achèvement. L'impatience est plus vive chez Nadine Dussault, qui a subi des infiltrations et constaté des fissures dans les plafonds du balcon. « J'ai déboursé 480 euros pour faire une expertise, je me sens lésée. » Un ménage a même dû condamner pendant plusieurs mois une chambre dans laquelle régnait une odeur insupportable. C'est vrai qu'il y avait des prestations à terminer à la livraison, mais le dialogue a toujours été là, se défend le gestionnaire. David Témine. On respecte les désiderata de chacun. Mais les choix sont restreints par l'organisme social qui assure la faisabilité financière, justifie de son côté Alain Grima, l'architecte du projet, pour les 13 bâtiments hors Abricop. D'autres livraisons suscitaient moins de déception. Autre ombre au tableau, la difficulté de jardiner sur une ancienne friche industrielle. Le maître d'ouvrage nous a déconseillé de planter des arbres fruitiers dont les racines descendent à plus de 2 mètres, car seulement 70 cm de terre ont été enlevés, explique Sylvain. Certains habitants aimeraient avoir leur potager au jardin du Barry. Il y avait le stand de tir. Des boulets ont été retrouvés en 2016. Mais la zone accueille les bâtiments provisoires de l'école. Eh oui. Donc, elle a bénéficié des normes de dépollution plus drastiques, se rassure-t-il. Une douille de cartouche a été retrouvée il y a 2 mois devant l'école, qui ouvrira en mars 2019. Donc, on peut aller voir sur place ce que ça donne. Nous nous sommes demandé si c'était une bonne idée de construire un écoquartier sur une friche industrielle et à côté du couloir aérien. Mais le terrain aurait de toute façon été converti en projet immobilier, plaide Régis Godec. Avant de démarrer la construction en 2014, la mairie s'est attelée à la dépollution chimique et pyrotechnique du site. En découvrant un niveau de pollution supérieur à nos attentes, nous avons commandité une dépollution massive de la première zone par excavation. Sur la partie est, nous faisons une cartographie plus fine et privilégions le confinement sous voirie. On ne pourra jamais dépolluer entièrement. Il faut ramener la pollution à un seuil conforme, affirme Sacha Briand, adjoint aux finances du maire Jean-Luc Moudenque. À l'issue des travaux de réhabilitation de l'avenue de Grande-Bretagne et de la voie du Toec, 48 123 munitions, dont 6 boulets de l'époque napoléonienne, ont été déterrés. L'État a été condamné en octobre 2018 à verser une indemnité de 10 millions d'euros à la commune pour dépollution insuffisante de la cartoucherie. La dépollution chimique est toujours en cours sur la partie de la troisième phase du projet. Le coût total prévisionnel de la dépollution atteint 29 millions d'euros. Oui. Eh bien, repose musicale, hein, ça vaut la peine. C'était encore Kumba Golo, bel hommage à Makeba. Alors maintenant, on va revenir à un domaine qu'on avait abordé dans l'agenda il y a, à deux reprises, je crois. Il y avait eu, je vous avais signalé, une réunion d'initiation, de formation, pour ceux qui sont candidats à un retour à la Terre ou à un aller simple. Il y avait eu une réunion à Frouzins et je crois qu'il y en avait une à Castanet ou quelque chose comme ça. En tout cas, étant donné le nombre de candidats, le numéro qui a été consacré à Toulouse dans la revue Z a consacré ce qu'il a appelé un ABC terre. Parce que vivre et travailler à la ferme, cultiver l'autonomie et les champs, c'est pas complètement évident. De la vague idée des débuts à la première récolte, en passant par la procédure d'acquisition et de mise en valeur, alors la revue Z défriche le terrain et nous offre un abécédaire pour affronter le lacis des administrations agricoles. Alors, pour commencer, bien entendu, ça va être la lettre A, agrandissement. Qu'est-ce que ça veut dire en langage agricole, l'agrandissement ? Ça part à l'agrandissement. C'est ainsi qu'est bien souvent résumé le devenir des terres laissées libres par un exploitant partant à la retraite. Ainsi diminue le nombre d'agriculteurs, en même temps qu'augmente la taille des exploitations, dont la moyenne a quasiment quadruplé sur les 50 dernières années. Et les cumulards se multiplient. Ces exploitants déjà installés, qui récupèrent les terres quand elles se libèrent, souvent au détriment de projets de nouvelles petites fermes. 60% des exploitations françaises de moins de 20 hectares ont disparu en 30 ans, et la moitié des terres cultivées sont aux mains de 10% des exploitants. Et oui. Et puis, un slogan que vous avez souvent entendu, le bon sens a de l'avenir. Alors à la lettre B, comme bon sens, l'abécédaire continue. Depuis 1885, le Crédit Agricole, véritable institution de la profession, incarne le bon sens, cette évidence qui ne trompe jamais. C'est armé de son slogan historique, le bon sens près de chez vous, que la Banque des Paysans les a, pendant les années 70-80, poussés à l'endettement, véritable machine à rendre l'industrialisation inéluctable pour ensuite les livrer à la banqueroute au moindre défaut de rendement. Omniprésent dans les institutions agricoles, le Crédit Agricole siège notamment dans les SAFER et dans les commissions départementales d'orientation. Et on va voir tout ça en détail. Alors, à la lettre C, capacité agricole. Qu'est-ce que ça ? Il faut disposer d'une formation en bonne et due forme ou d'une expérience professionnelle pour pouvoir justifier de capacité agricole. Véritable sésame pour accéder à la dotation jeune agriculteur, une aide financière à l'installation dont seul un projet sur trois arrive à bénéficier aujourd'hui. La capacité agricole est également prise en compte par la SAFER dans ses arbitrages. Un petit collectif qui soit expérimenté mais sans capacité ou prêt à apprendre sur le tas aura peu de chances face à un cumulard disposant d'un beau diplôme d'agronome. Oui, mais ce n'est pas toujours les agronomes qui réussissent le mieux, hein. On souffre toujours en France de diplômites aigus et ça engendre souvent beaucoup de désillusions ou pire. Et maintenant la lettre D, la déprise. Qu'est-ce que c'est que la déprise ? Eh bien la déprise, c'est la perte d'attractivité d'un territoire agricole. Les installations s'y font rares. Les terres davantage disponibles. C'est dans les zones en déprise qu'on retrouve le plus de projets jugés atypiques par les chambres d'agriculture. Un éleveur installé au sein d'un collectif commente. Bien sûr, pas mal de gens partent à la montagne, là où il y a un peu de terre libre, et déjà des personnes avec qui construire des choses. Et pourtant, c'est ici, en plaine, qu'il y a les meilleures terres. Si on n'essaye pas d'y venir et d'y rester, on laisse la place non seulement aux cumulards, mais aussi aux zones commerciales, au bétonnage, etc. Nous avons réussi à nous installer sur de bonnes terres en bordure d'agglomération dans la vallée du Rhône. Oui, de bonnes terres, parsemées de centrales nucléaires. À la lettre E, nous avons Aiguillère. Aiguillère, c'est un domaine où se sont installés des gens qui ne plaisent pas au Crédit Agricole. Mais qui sont les couples dans cette histoire? Il n'y a que 4 chambres et ils sont 6. Un collectif? C'est quoi? C'est une secte? Ces paroles prononcées par un conseiller technique de la SAFER ont peut-être scellé le sort du collectif de la ferme Aiguillère. Malgré les 3 capacités agricoles et les quelques 150 000 euros de promesses de part via Terre des Liens, qui s'ajoutaient aux apports personnels qu'ils pouvaient garantir, la 50aine d'hectares qu'ils convoitaient a été attribuée à un couple d'agriculteurs déjà en activité sur 2 autres fermes du canton. Alors que le collectif Aiguillère voulait mêler pratiques agricoles, politiques et culturelles, le comité local de la SAFER a arbitré en faveur d'un projet plus classique, respectant notamment les normes familiales traditionnelles. Eh oui, le fermage, qu'est-ce que c'est que le fermage? On ne sait plus trop. Le bail rural, régi par le statut du fermage, concerne plus des 3/4 des surfaces des fermes professionnelles en France. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, bien que chefs d'entreprise, les paysannes et paysans ne sont la plupart du temps pas propriétaires de leur outil de production. Le principal bail rural est le bail à ferme, plutôt avantageux pour les locataires. D'une durée de 9 ans, reconductible, il peut difficilement être rompu par le propriétaire. Ce qui explique qu'on croit toujours les occupants propriétaires. Les prix de location sont indexés à un barème fixé par l'État. Autant de droits qui limitent la spéculation sur le foncier agricole conquis par les paysans au sortir de la Seconde Guerre mondiale face aux propriétaires terriens. C'est grâce au fermage et à du matériel d'occasion que nous avons pu nous installer avec une mise de départ quasi nulle, raconte un collectif installé dans l'Ain sur 25 hectares en polyculture élevage. Et à la lettre H, on a hors cadre familial. Plus de la moitié des installations agricoles se font aujourd'hui hors du cadre familial, dans certains départements comme l'Ardèche, témoigne Gaspard d'Alens, chercheur en train de réaliser une enquête itinérante sur la question. D'ici à 2020, plus de 30% des agriculteurs ne seront pas issus du monde agricole. Un nouveau profil pour lequel s'ajoute, aux difficultés techniques, l'absence d'outils de production par transmission patrimoniale et l'absence de réseau social paysan. Oui, c'est toute la difficulté des gens qui s'installent pour une première fois. Oui, absolument. Et à la lettre J, nous avons forcément juridique, comité d'action juridique. Alors ça, c'est une trouvaille d'importance capitale. Lancé en 2004 par des militants de la Confédération paysanne, les comités d'action juridique se battent pour l'accès aux droits en milieu rural. Remettant au goût du jour les pratiques des boutiques de droit des années 70, des paysans qui font vivre les comités d'action juridique se réapproprient le monde du droit et s'organisent avec des juristes pour se défendre par eux-mêmes. Cette initiative, née dans quelques départements, s'est étendue à toute la région Rhône-Alpes et est en projet dans le Sud-Ouest. Elle comme lentille, lentillère. Quartier libre des lentillères. Le 28 mars 2010 à Dijon, des dizaines de paysans en lutte venaient appuyer le lancement de l'occupation de terres urbaines en friche. C'est aujourd'hui le quartier libre des Lentillères qui voit cohabiter des potagers collectifs, une ferme maraîchère, un snack, une salle des fêtes et des habitats légers. Le tout entièrement squatté, en lutte face au projet d'éco-quartier bétonné par la mairie. Alors maintenant, on aborde le M avec MSA, SMA et demi-SMI. Ne pas confondre. Parmi de multiples acronymes, la Mutuelle Sociale Agricole, la MSA, est l'équivalent à la fois de la Sécu, de l'URSSAF, de la CAF et de la Caisse de retraite pour les agriculteurs. Par contre, la SMA, c'est tout à fait autre chose. C'est la surface minimale d'assujettissement, soit le seuil sous lequel le paysan n'aura pas le droit d'être affilié à la MSA, à moins de justifier d'heures de travail ou de revenus très conséquents. Ça veut dire que si le paysan il a une trop petite ferme, eh ben il n'aura ni Sécu, ni URSSAF, ni CAF, ni rien du tout. C'est épouvantable. C'est une vraie porte d'entrée dans le monde agricole et un obstacle administratif dressé sur la route de ceux qui veulent relancer les toutes petites fermes. Pour compliquer l'affaire, personne n'utilise encore le terme de SMA, créé par la dernière loi agricole, tout comme celui d'AMA, activité minimale d'assujettissement, sous lequel sont cumulés SMA, temps de travail et revenus. On parle toujours de demi-SMI, le terme précédent, pour nommer l'obstacle de la taille d'exploitation. Oui, ben vous n'allez pas retenir tout ça si vous ne comptez pas vous installer prochainement en terre agricole, mais je pense que tout le monde aura compris que si on a une ferme ou si on loue par fermage une ferme trop petite, eh bien on s'embarque dans une drôle de galère. Enfin, pas drôle du tout. Parce que vivre sans sécu, sans URSSAF, sans CAF, etc., il faut vraiment du courage. La profession. Qu'est-ce qu'on appelle la profession ? François, éleveur installé dans le sud-ouest, raconte, en marge des rencontres du foin levé, oui, ce que je vous lis, ça a été élaboré donc par les journalistes de la revue Z, et par en particulier Alexandre Hyacinthe, à une réunion dans un domaine qu'on appelle le foin levé. Je trouve ça très joli, cette expression. Donc, ils ont fait des rencontres au foin levé pour faire le point des difficultés et des solutions pour les jeunes agriculteurs. Donc, en marge des rencontres du foin levé, François remarque: il y a quelques années, un voisin agriculteur m'appelle. « On va à la préfecture, faut foutre le bordel !» Quand je lui demande ce qui se passe, il me répond « J'en sais rien, c'est la profession, faut y aller !» La profession, c'est un mot qui illustre la place qu'a pris la FNSEA dans le paysage et qui désigne à la fois le syndicat et l'ensemble du monde agricole, comme si l'un représentait entièrement l'autre, ce qui n'est pas le cas fort heureusement, au point de se confondre avec lui. Alors que les intérêts défendus par la FNSEA sont loin d'être ceux de tous les agriculteurs. Pour accéder à la terre, mieux vaut se sentir de la profession. Ah ben oui, question milieu, solidarité, etc. Mais la solidarité s'organise aussi avec en particulier la Confédération paysanne, mais ça, vous le savez déjà. Et on arrive maintenant au SAFER. Alors là, au SAFER, je vais reprendre mon souffle parce qu'il y en a un morceau. Thank you. SAFER, Société pour l'aménagement foncier et rural, organisme parapublic contrôlant localement l'achat du foncier agricole. Les SAFER possèdent un droit de préemption sur toute parcelle agricole qui leur permet de choisir l'acquéreur final, en court-circuitant les marchés immobiliers, ce qu'elles font pour environ 10% des transactions. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les SAFER ont été fondées par le gouvernement comme autant d'outils de lutte contre la spéculation, censés garantir le maintien des terres agricoles. Un comité technique étudie les différentes propositions d'achat en vue de l'arbitrage de la SAFER. L'équilibre de ces comités a été savamment pensé pour représenter la diversité des institutions agricoles, délégués syndicaux, élus locaux, représentants de l'administration, mais bien souvent, le banquier et l'assureur agricole du coin sont autour de la table. Seul hic, dans bien des cas, ces gens sont tous liés. À qui ? À la FNSEA, bien sûr, qui n'est pas surnommée la profession pour rien. C'est le jeu démocratique, assure la direction de la SAFER au Languedoc, fière de représenter l'hégémonie du moment. On ne compte plus les cas où une SAFER privilégie l'agrandissement sur l'installation d'un projet, vite rejeté comme n'étant pas viable, et accorde sa bienveillance à de juteuses opérations immobilières ou tout simplement pratique le copinage entre membres du comité. Les SAFER sont donc logiquement perçues comme des adversaires par ceux qui cherchent à construire des alternatives paysannes à l'agro-industrie. Attention, la composition du comité technique et le fonctionnement réel des SAFER peuvent varier d'un endroit à un autre. Parler de la SAFER au niveau national, ça n'a pas beaucoup de sens, nuance Pascal Lombard, administrateur bénévole de Terre de Liens Midi-Pyrénées, rencontré aux rencontres du Foin Levé. La Cour des comptes a malgré tout intitulé son rapport 2014 « Les dérives d'un outil », soulignant que moins de 10% du foncier transitant par une SAFER est consacré à une première installation, et dénonçant même des activités peu transparentes. C'est dit. Et maintenant, un article sinistre à la lettre S, solidaire. Oui. Cotisant solidaire. Eh bien, figurez-vous qu'à la Mutuelle Sociale Agricole, la fameuse MSA dont on a parlé, ce sont les petits qui sont solidaires des gros. En cultivant sur une surface inférieure à la SMA, hein, la plus petite surface, disons, autorisée ou recommandée, un petit paysan ne peut pas s'inscrire comme cotisant principal et bénéficier de la couverture sociale associée à ce statut, comme je viens de vous le lire. Il est par contre obligé de s'acquitter d'une contribution financière et se voit donc affublé du nom de cotisant solidaire, alors que lui n'en retire aucun avantage. Un système mis en place pour permettre la cotisation des doubles actifs, déjà protégés par une autre activité professionnelle, mais qui s'applique mécaniquement à tous ceux qui travaillent sur des petites surfaces, même s'ils n'ont aucune couverture sociale. Pour couronner le tout, les quelques 60 000 cotisants solidaires, donc sur petite surface, n'ont pas le droit de vote aux différentes élections professionnelles, à commencer par celle des chambres d'agriculture. Ça, c'est l'arnaque totale, ça. Et heureusement, il y a Terre des Liens, à la lettre T. Créée en 2003, Terre de Liens comprend aujourd'hui un réseau associatif, une foncière et une fondation. Chacun peut déposer son épargne auprès de la foncière qui sera utilisée pour acheter des fermes et des terres agricoles, ensuite louées au projet qu'elle soutient, généralement certifié en agriculture biologique. La fondation recueille de son côté des dons, de l'argent utilisé pour faciliter l'accès au foncier ou même directement des terres agricoles. le projet et d'aider concrètement des gens, mais aussi de faire émerger un débat politique sur la question foncière, raconte toujours Pascal Lombard de Terre de Liens Midi-Pyrénées. Et puis, puisque nous sommes à la veille des élections européennes, voyons ce que ça donne à la lettre U, Union européenne, et la PAC. Avec sa politique agricole commune, la PAC, l'Union européenne fut un puissant agent de transformation de l'agriculture. Conçue dès 1962 comme un outil de subventionnement et de régulation des prix, permettant de barder les paysans de machines agricoles modernes, la PAC est devenue aujourd'hui un instrument servant à maintenir les prix bas. Elle dope ainsi l'agriculture européenne sur les marchés mondiaux, faisant d'une production agricole non subventionnée une marchandise compliquée à vendre à son prix de production considéré rapidement comme exorbitant. Les différents gouvernements français y ont toujours poussé leurs pions en défense d'une agriculture française productiviste et exportatrice, la France étant le premier bénéficiaire de la PAC. Les modes de calcul font que, pour faire simple, plus on est gros, plus on touche d'argent. Et on finit évidemment par la ZAD. ZAD, près de Nantes, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, n'incarne pas que la lutte contre un aéroport. À côté des paysans historiques engagés dans la défense des terres agricoles, de nombreux occupants se sont mis au travail sur les terres occupées. L'aéroport définitivement abandonné, comment alors pérenniser l'usage collectif et antiproductiviste des terres ? Faut-il chercher le statut légal le plus adapté et tenter de le faire accepter par les autorités ? Est-il possible de rester cultivé sur place, sans droit ni titre, comme ça se fait déjà depuis plusieurs années ? Comment faire tenir ensemble sur le long terme les usages des paysans historiques du coin et ceux des nouveaux arrivants ? Autant de sujets d'ores et déjà débattus sur la ZAD, pour prendre un coup d'avance. Alors j'espère que ça ne vous aura pas trop endormi, les aspects techniques des installations des nouveaux paysans. Si vous ne protestez pas, je poursuivrai. Je m'entêterai le mois prochain dans mon prochain mag, cette revue Z consacrée à Toulouse fait vraiment le tour du problème des nouveaux paysans et il y a encore deux autres articles au moins qui seraient très intéressants d'éplucher. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Pour aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin. Je suis submergée d'obligations pas drôles du tout. Donc, je ne vais même pas vous faire un contre-histoire tout à l'heure. Mais le contre-histoire, vous le rattraperez en rediffusion, probablement. Pour le moment, je fais face aux urgences. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.